Salut tout le monde! À la recherche du groupe perdu, émission 66, en direct des studios de RDWA, émission qui s'intitule Woodstock Story, c'est le volume 1. Cette semaine et les deux suivantes, on va donc faire un comeback Flower Power qui se déroule les 15, 16, 17 et 18 août 1969. Date du mythique concert festival de Woodstock, peut-être le plus mythique de tous, en tout cas celui qui a marqué le plus l'histoire de la musique moderne. Ce festival marque l'avènement de la génération Aquarius, Flower Power, hippie, peu importe comment on l'appelle. Je n'étais pas né malheureusement, mais le film Woodstock qui retrace l'événement m'a beaucoup marqué à l'époque où je l'ai vu, il y a de ça une dizaine d'années. À regarder au passage absolument ce film pour tous ceux qui aiment la musique ou la sociologie, c'est d'intérêt général puisque c'est un cours d'histoire sur ce qui fut à une époque l'idéal de toute une génération, cet idéal de paix, de non-violence, de partage, de solidarité, de multiculturalisme, de valeurs humanistes et environnementalistes s'est peu à peu envolé. À vrai dire, dans les années 70 et encore plus dans les décennies suivantes, mais il est bon de se rappeler que les utopies peuvent l'emporter et gouverner nos vies. Le meilleur exemple est sous nos yeux, puisque peu de gens auraient parié dans les années 50 sur l'avènement actuel des théories néolibérales conceptualisées par Smith, Hayek et autres Friedman. Et pourtant, les fous du marché ont réussi à force de matraquage à imposer ce système à quasiment toute l'économie mondiale, avec les dégâts collatéraux qu'on connaît aujourd'hui. Ça existe donc bel et bien des utopies qui s'appliquent et qui contaminent la planète. Utopiques, les quatre jeunes hommes à l'origine du projet l'étaient probablement, au moins un peu, même si c'était aussi des businessmen. À l'origine, on trouve John Roberts et Joel Rosenman, deux jeunes bourgeois qui disposent d'un héritage important à faire fructifier. Ils publient une annonce dans le New York Times. Jeune homme avec un capital illimité cherche des opportunités d'investissement intéressantes et des propositions d'affaires. Artie Kornfeld, le vice-président de Capital Records, et Michael Lang, un hippie qui vient d'organiser avec succès le Miami Pop Festival, tombent sur l'annonce et y voient aussitôt la manne nécessaire à l'organisation d'un autre grand festival musical. Tous les quatre fondent alors Woodstock Venture, avec pour objectif d'organiser un festival gigantesque. Ils avancent le chiffre ambitieux de 50 000 personnes. Le festival en accueillera près de 10 fois plus. Le Quatuor se rencontre en février 1969. Les deux jeunes financiers attirés par ce monde de la contre-culture qu'ils ne connaissent pas sont séduits et l'amalgame se fait. Le projet initial de monter un studio d'enregistrement ne verra jamais le jour, mais des discussions émergent sur l'idée d'un festival de musique qui viendrait couronner l'époque du Flower Power. Si elle a les contacts, la nouvelle entreprise appelée Woodstock Ventures n'a pas assez de crédibilité pour convaincre les grands noms du rock'n'roll qu'elle vise. Le quartet décide alors d'appliquer une méthode simple, doubler la mise. Jefferson Airplane, le groupe du moment qui prenait 6 000 $ par concert, repart avec un chèque énorme pour l'époque de 12 000 $. Les Creedence Clearwater Revival touchent eux 11 500 $ et les Who 12 500 $. Les contrats signés confèrent une crédibilité instantanée. Jimi Hendrix, lui, est payé 32 000 $. Tout le monde veut être à Woodstock, sauf Dylan, qu'on entend derrière, pas du tout à l'aise avec le mouvement hippie, alors même que la région de Woodstock avait été choisie pour l'attirer. Dylan, tranquillement installé dans sa maison de campagne, préfère lui rester loin de cette foule qui a fait de lui un messie qu'il n'a jamais voulu être. Le site initialement loué à Woodstock doit être abandonné après le refus du comté d'accueillir le show sous la pression des habitants. C'est à ce moment qu'Eliot Tiber entre en jeu, propriétaire d'un hôtel à Bethel, à 70 km au sud-ouest de Woodstock. Il organise chaque année un petit festival de musique de chambre et dispose donc d'un permis pour accueillir du public. L'histoire de cet homme, Eliot Tiber et de sa famille, on la retrouve d'ailleurs dans un autre film, Hôtel Woodstock, film très sympa également à voir. Tiber vendra son permis pour $1 symbolique et fit son hôtel le QG des organisateurs et entra de plein pied dans le monde des hippies pour en devenir une des légendes. Tiber disposant d'un site bien trop petit pour les ambitions du festival, Michael Lang loue 75 000 $ le terrain de Max Yasgur, un fermier voisin de Tiber. Une solution trouvée moins d'un mois avant le début du festival. Malgré la résistance des voisins qui avaient installé des pancartes « N'achetez pas de lait », stoppez le festival de musique hippie de Max, Woodstock ne se tiendra donc pas à Woodstock, mais bel et bien à 70 km de là, à Bethel, dans un champ de 2,4 km², dont une colline incurvée qui forme un amphithéâtre naturel. Les organisateurs lancent la campagne publicitaire dans les journaux, encore Underground, Village Voice et Rolling Stones en avril 69, et dans le New York Times en mai. Les réclames présentent l'Aquarian Exposition, le nom officiel de l'événement, en référence à la chanson Aquarius de la comédie musicale Air. L'histoire, Artie Kornfeld de Capitol Records y pense justement. Le père de Woodstock, en tout cas un des pères, se démène pour obtenir qu'on tourne un documentaire sur son festival. Et alors que toutes les films lui claquent la porte au nez, Fred Weintraub de la Warner sera son sauveur, l'ancien patron du mythique club de Greenwich Village, qui a vu passer entre Dylan et Zappa au début de leur carrière, décide contre l'avis de tous de financer le film. Woodstock est un des rares témoignages d'une très très grande qualité sur un concert des années 60. Il a été intégré par la Bibliothèque du Congrès comme un document majeur de la culture américaine. Les publicités promettaient de passer du bon temps, 3 jours de paix et de musique, des centaines d'hectares à parcourir. Promène-toi pendant 3 jours sans voir un gratte-ciel ou un feu rouge, fais voler ton cerf-volant, fais-toi bronzer, cuisine toi-même tes repas et respire de l'air pur. Manifestement, le message séduit, puisque près de 500 000 spectateurs assisteront à l'événement. Face à une telle affluence, les difficultés logistiques abondent. Les axes d'accès aux lieux de concert sont saturés très très vite et des embouteillages monts se forment, obligeant à utiliser des hélicoptères pour amener les artistes de leurs hôtels à la salle de spectacle. Alors que se construit l'immense scène en bois, 24 heures avant le début du festival, 50 000 campeurs sont déjà installés dans les champs et alentours, et la marée humaine ne s'arrête pas. Ainsi, à 10 km du lieu, des bouchons énormes se forment. Il n'y a personne pour régler la circulation et des milliers de voitures se retrouvent par choc contre par choc sous la canicule sur plus d'une dizaine de kilomètres. Après avoir attendu des heures en vain, les gens abandonnent leur voiture pour se rendre au... ou tenter de se rendre au festival. En fait, à cette période de l'année, il y a de violents orages suivis de fortes chaleurs et des milliers de personnes auront marché jusqu'à 20 km pour arriver couverts de boue, sans autre bagage que leur billet, pour ceux qui l'avaient. Ces embouteillages où seront ainsi bloqués des camions de matériel vaudront à la région d'être déclarée zone sinistrée dès le samedi et font aujourd'hui partie intégrante de l'histoire de Woodstock. Ils seront d'ailleurs filmés et figureront dans le film qui sortira un an plus tard. En fait, 180 000 places avaient été vendues et la police a estimé à 1 million le nombre de personnes sur les routes vers le site et des centaines de milliers n'arriveront pas jusque-là, préférant se retrouver entre eux et profiter du calme que la nature leur offrait. Le vendredi 15 août 1969, premier jour des festivités, la file de voitures s'étire sur des kilomètres, 20 peut-être 30. La route 17B qui mène à la commune de Bethel est complètement bloquée. Sur la route 17 qui vient de New York, le trafic est dense, c'est un faible mot. Woodstock Ventures avait déjà écoulé 18 000 billets en pré-vente à $18 pour les 3 jours. Michael Lang avait estimé 70 000 autres festivaliers qui viendraient prendre leur ticket sur place. Il avait assuré la ville de Bethel, 4 000 âmes, que le festival n'accueillerait que 50 000 personnes. Ils seront 10 fois plus. Le jeudi 14, 25 000 personnes sont déjà sur place. Vendredi, les quelques 200 000 festivaliers qui convergent déjà vers le champ de Yasgur garent leur voiture dans les prés, parfois même en plein milieu de la route. À Bethel, l'équipe du festival n'est pas du tout prête à gérer une telle situation. Le service d'accueil était déjà à peine suffisant pour recevoir 200 000 personnes. La sécurité, elle, est assurée par la Police Force, composée d'une centaine de membres d'une communauté hippie, la Hog Farm. Leur chef, Wavy Gravy, déguisé en ours, menace les éventuels fauteurs de troupes d'attaque à coups d'eau pétillante et de tarte à la crème. Grandiose. Et face aux 200 000 personnes, les barrières qui délimitent le champ ne tiendront pas bien longtemps. Il est un peu plus de midi ce vendredi 15 août, la clôture tombe, le festival devient de fait gratuit. Le premier concert doit commencer à 16h. Empêtré dans les embouteillages, aucun groupe n'est encore arrivé. En coulisses, les organisateurs qui redoutent de voir les centaines de milliers de spectateurs s'impatienter essayent depuis des heures de louer des hélicoptères. Un premier arrive miraculeusement un peu après 16 heures. Au premier des trois jours, la paix est maintenue et le festival peut commencer. Richie Evans, peu connu à l'époque, devait être le cinquième chanteur de la journée. Il sera le premier. Woodstock commence. Nous sommes le vendredi 15 août 1969. Il est 17h07.
Are in. We're just trying to match up groups of equipment and we'll be okay.
We apologize for the noise of the choppity-choppity, but it seems there are a few cars blocking the road, so we're flying everybody in.
Okay. Mr. Richie Haven!
Marching to the fields of Korea. Birmingham War. Hey, marching to the Birmingham War. Hey, what do you dumb singing the song? Some of you are not even listening. Tell me what it is we've got to do. Wait for our fields to start glistening. Hey, wait for all the bullets to start whistling. Here comes a hydrogen bomb. And here comes a guided missile. Here comes a hydrogen bomb. I can almost hear its whistle. I can almost hear its whistle. Yeah, yeah.
Et après plus de 2 heures de concert, de rappel du public et de rappel des organisateurs qui ne voyaient toujours pas venir la relève, le chanteur est arrivé au bout de son répertoire. Il est 19h. Richie Havens tâtonne, lance un premier riff, se raccorde, puis relance la machine. Ça y est, c'est parti. Freedom démarre complètement improvisé. Cette chanson restera comme un des grands moments du festival et même du chanteur. We'll be right back. Voilà pour ces trois morceaux de Richie Evans. Ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'il a produit en studio. C'est beaucoup plus arrangé en studio, très, beaucoup plus pop. Là, c'est du roots vraiment avec lui et quelques un guitariste et deux percussionnistes, il me semble. Voilà un très grand monsieur, Richie Evans. Et alors qu'il arrive à la fin de cette chanson, Freedom, les renforts musicaux arrivent dans un hélicoptère de l'US Army. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est bien l'armée qui a sauvé le festival avec cette aide logistique. Les groupes comme Sweetwater ou The Incredible String Band descendent ce qui est en fait le seul appareil disponible à ce moment. En début de soirée, c'est au tour de la chanteuse Bert Somers. Elle est suivie à la tombée de la nuit par le folkeux Tim Hardin. Les premières gouttes commencent à tomber.
If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you have my baby? If a tinker were my trade, would you still find me carrying the pots I made, following behind me? Save my love for loneliness, I save my love for sorrow. I've given you my onlyness, give me your tomorrow. If I were much poorer, then you seem to see me. Would you be surer? I couldn't really be me. If I were a carpenter, you were a lady, would you marry me anyway? Would you marry me anyway? Would you have my baby?
Ravi Shankar et sa sitar prendront le relais. Et au musicien indien succède une complète inconnue, Mélanie, si peu connue qu'elle dut chanter sa chanson Beautiful People au service de Sécu pour pouvoir entrer en coulisses. Son interprétation opportune de Candle in the Rain, puisqu'il continuait à pleuvoir, fait s'allumer les bougies dans le public, à présent fort de 300 000 personnes. Sa prestation de Woodstock, comme beaucoup d'artistes, lancera sa carrière. Dans la nuit, Arlo Guthrie, arrivé en début de soirée, chante son Coming into Los Angeles.
London from over the pole, flying in a big airliner.
Après le fils de Woody Guthrie, le maître de Bob Dylan, c'est au tour de Joan Baez de jouer sous la pluie. La tête d'affiche de cette première journée est également le dernier concert de la soirée. Elle arrive alors sur scène, enceinte de 6 mois, ramenant avec elle des nouvelles de son mari emprisonné à cause de son activisme. La passionnera des Protest Singers interprète entre autres Joe Hill, qu'on entendra, ce sera le premier morceau, sur le syndicaliste condamné à la peine de mort au terme d'un procès partial. Et Swing Low, Sweet Chariot, célèbre gospel écrit à la fin du 19e siècle par un esclave affranchi. L'ancienne compagne de Bob Dylan interprétera de nombreux autres titres. On s'écoute les suivants. Joe Hill, chanson sur ce syndicaliste. Et Sweet Sir Galahad, Joan Baez.
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he. Bosses killed you, Joe. They shot you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe. I didn't die, says Joe. I didn't die. And standing there as big as life and smiling with his eyes, says Joe, what they can never kill, went on to organize, went on to organize. San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there you find Joe Hill, it's there. I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
Sing you a song called Sweet Sir Galahad. It's the only song that I've ever written that I sing anywhere outside of the bathtub, because I'm just smart enough to know that my writing is very mediocre. But anyhow, this is about my brother-in-law, who has very long hair, and he married my sister Mimi after the death of her husband a few years back, Richard Farinio, whom some of you remember. And the images conjured up in this funny little song are simply that I watched him come courting, and when he did, he used to come in the middle of the night through her bedroom window, feet first. Sweet Sir Galahad came in through the window in the night when the moon was in the shook the long hair from his neck. Then he told her she'd been working much too hard. It was true that ever since the day her crazy man had passed away to the land of poets' pride, she laughed and talked a lot with new people on the block. Always at evening time she cried. And here's to the dawn of their days. La la dee 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 dee. La 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 la. La of those years that numbered three. Well, you know, I think my fate's belated 'cause of all the hours I waited for the day when I'd no longer cry. Get myself to work by eight, but oh, was I born too late? Do you think I'll fail at every single thing I try? Upon her face, a smile that could linger, even stay. Sweet Sir Galahad went down with his gay bride of flowers, the prince of the hours of her lifetime.
S'achève cette première journée du festival de Woodstock. On était le vendredi 15 août 69 et le samedi 16 août, le soleil est plus ou moins revenu pour accueillir le réveil des festivaliers. Les pluies de la nuit ont fait du champ une vaste étendue de boue. La majeure partie des 300 000 personnes plane encore. L'air sentait la ganja, paraît-il. La vie en communauté s'organise dans une ambiance de paix. La journée commence pourtant par un drame. Raymond Misak, la vingtaine, meurt écrasé sous les roues d'un tracteur. Le jeune festivalier dormait dans un sac de couchage au milieu d'un champ boueux. Le fermier ne l'a probablement pas vu. En tout cas, on ne le retrouvera jamais. Si l'atmosphère est peace and love, les conditions sanitaires, elles sont déplorables. Les toilettes sont impraticables, la nourriture et l'eau potable commencent à manquer. Dans les tentes, les secours sont débordés par les bad trips. L'ambiance est bien partie en début de journée pour être tendue. C'est d'ailleurs la principale préoccupation des organisateurs, qui sont plus ou moins les seules personnes vraiment sobres. Ils redoutent que les hippies auxquels ils ont affaires, qui sont maintenant presque 500 000, se transforment une foule en colère, convaincue que la musique adoucit les mœurs et que pendant qu'ils dansent, ils sont occupés. L'équipe décide de chambouler le programme. Les concerts qui devaient reprendre vers 17h, commenceront finalement à midi. Nous sommes le 16 août 69 à Woodstock et après une première journée plutôt folk, le samedi sera rock. Après Kill et le Keith Hartley Band, deux groupes dont la prestation ne restera pas dans l'histoire, c'est Country Joe McDonald qui allait se charger de réveiller le demi-million de spectateurs. Il est un peu plus de 14h. Prochain arrêt, le Vietnam. La chanson satirique de Joe McDonald qui brocarde les généraux, Wall Street, les pères machos, les mères effacées de l'Amérique puritaine qui envoie ses enfants à la mort, appelle à la foule pourquoi elle est là. La paix, car Woodstock est avant tout un festival de paix, ça faisait partie des arguments publicitaires. Deux ans après le Summer of Love et son idéal pacifiste, les protestations contre la guerre au Vietnam se font de plus en plus pressantes. Les organisateurs l'ont bien compris et pour attirer la masse des pacifistes, ils ont bien pris soin de mettre le mot « paix » dans leur slogan. La performance de Joe McDonald avec son intro de « Pom Pom Girl »« Donnez-moi un F, un U, un C, un K, qu'est-ce que ça donne ?» est un des moments forts du festival. On s'écoute ce morceau « Country Joe McDonald ».
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made. Supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they're dropping on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And you know that peace can only be won when you've blown them all the kingdom come. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Whoopee, we're all gonna die. Now come on, mothers throughout the land, pack your boys off to Vietnam. Come on, fathers, don't hesitate to send your sons off before it's too late. Be the first one on your block to have your boy come home in a box. All right! One, two, three, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven, open up the pearly gates. Well, wonder why
we're
all gonna die.
All right. Ladies and gentlemen, Country Joe.
I'd like to sing you a little tune that happened. I've been out in California, and
Dans un style plus léger, John Sebastian prend la suite. Le chanteur pas prévu au programme, flânant complètement défoncé de son propre aveu dans les coulisses, et poussé comme par enchantement sur le devant de la scène, il s'embarque alors dans un monologue décousu qui démarre derrière, qui doit sûrement paraître cohérent à une audience qui n'est pas moins stone. C'est pas la meilleure prestation du festival, mais on s'écoute quand même un petit morceau pour la route. Il s'appelle Rainbows All Over Your Blues. C'est John B. Sebastian.
I've been waiting my time just to talk to you. You've been looking all down at the mountain and down at your shoe. Well, baby, I come to give you the news. I'll paint rainbows all over your blue. I heard you've been spending a lot of your time up in your room. And at night you've been watching the dark side of the moon. You don't talk to nobody if they don't come to you. So babies, I came up here to sing you a tune. Is all you've really got to say, 'cause it's time to find our lifestyle, 'cause that really weren't the way. Let's go for a bounce on my trampoline. I can show you the prettiest mountain that you've ever seen. You better run your closet and fish out your blue suede shoes. I'll paint rainbows all over your blue.
Voilà, il accordait souvent sa guitare durant son set, John B. Sebastian. Et après cette parenthèse bucolique, Santana et son band entrent en scène, complètement défoncés aussi, puisqu'ils n'étaient pas prévus au programme normalement avant plusieurs heures. Le guitariste d'origine mexicaine, inconnu à l'époque, va donner une des meilleures performances du festival avec quelques autres artistes et décrocher son premier gros contrat avec la Columbia. Il balance son rock latino à des amateurs de folk qui n'ont pas l'habitude de ce son et qui sont sur le cul. Il y avait vraiment de quoi. Le mec en transe derrière la batterie s'appelle Michael Shrieve. Il a tout juste 20 ans à cette époque, ce qui fait de lui le plus jeune musicien du festival de quelques mois, puisque le bassiste de Santana est également très très jeune. Il décoche notamment un solo d'anthologie sur Soul Sacrifice, malheureusement souvent coupé lors des montages sonores et vidéo. Un solo comme ça, ça ne se coupe pas, ça s'écoute jusqu'au bout pour apprécier les enchaînements, les humeurs et le feeling du moment. Les solos de batterie, ça peut être chiant, mais celui-là, il est vraiment vraiment excellent. On va se l'écouter, ce sera le dernier morceau de la dernière série. Et puisque c'est la première vraie découverte de ce festival, et c'est pas mal pour des mecs qui n'ont pas encore sorti de CD, on va s'écouter 4 morceaux. Le premier, ce sera Evil Ways. Le suivant, Sabor. Le troisième, Jingo. Et ensuite, le morceau culte, Soul Sacrifice. C'est parti pour une partie du set de Santana en ce mois d'août 1969.
Thank you. Thank you.
Thank you.
Thank you. Thank you. Thank you very much. This next song is called Persuasion.
please greet very warmly with us, Mountain.
Voilà, c'est sur ce morceau culte Soul Sacrifice qu'on se quitte, et pour la suite, je vous donne rendez-vous les semaines suivantes. C'était le premier volume des émissions intitulées Woodstock Story. L'émission sera téléchargeable dès demain sur le site de RDWA à la rubrique émission musicale comme d'hab, et vous pouvez la réécouter jeudi matin à 10h. Bonne semaine, c'était À la recherche du groove perdu en direct des studios d'RDWA. Bonne soirée, ciao.